Chapitre 15. En plein ouragan. L'ouragan à ce moment était plus formidable que jamais. Les montagnes d'eau, soulevées par le vent, s'entrechoquaient, se brisaient les unes contre les autres, parmi d'énormes tourbillons d'écume formant dans les ténèbres de larges taches d'un blanc livide. Par paquets, le vent arrachait les crêtes des monstrueuses vagues, les pulvérisait et les éparpillait de tous côtés. Impossible maintenant de distinguer la direction de la tempête. Le vent semblait souffler des quatre points cardinaux. Sa direction changeait à chaque seconde. L'Adler, péniblement poussé par sa machine, rampait en quelque sorte parmi les gigantesques masses d'eau. Par moments, une vague le soulevait sur sa formidable croupe. Il restait suspendu en équilibre pendant de longues secondes sur la crête écumante de la montagne liquide pour retomber d'un coup dans une vallée d'eau entre deux autres lames qui menaçaient de l'écraser sous elle. Des cataractes sans cesse renouvelées s'abattaient sur son pont, roulant devant elle les débris des roufs pêle-mêle avec les marches à mer arrachées, les capots des claires-voies et les fragments d'embarcations. Mais Chrysler, malgré le péril, n'avait pas hésité à quitter la passerelle où il se trouvait relativement en sûreté pour courir sus à ses victimes. C'était plus que sa vie, c'était la réussite même de la formidable partie qu'il avait engagée qui était en jeu. Il savait que Francis Drake braverait tout pour fuir, et lui, Chrysler, était également prêt à tout braver pour le contenir et le retenir. Aussi, sans demander d'autres explications à Marbourg, avait-il immédiatement appelé les hommes de quart qui se tenaient à l'abri du petit roufle, renfermant la chambre de veille, et leur avait-il ordonné de le suivre. Stein suffisait à la conduite du navire, d'autant plus qu'il n'y avait rien à faire, sinon tenter de garder la direction du nord. Tandis que, parmi les paquets d'eau salée, le bandit se précipitait sur le Svardeck, dans la direction du You-You, que les fugitifs s'efforçaient de mettre à la mer, son cerveau lucide calculait déjà toutes les conséquences de cette fuite. Presque sûrement, Francis Drake et ses compagnons se noieraient. Aucune embarcation, si habilement manœuvrée fut-elle, ne pourrait tenir une minute sur une mer pareille. Et encore, en admettant que le You-You, à peine à l'eau, ne se brisa point contre les flancs de l'Adler. Si Francis Drake se noyait, tout était perdu. Ses héritiers contesteraient les ordres donnés à Gilson et prouveraient facilement que le banquier n'avait jamais mis les pieds à Honolulu. On ferait une enquête, et une enquête, cela peut mener loin. Il ne fallait pas que Francis Drake mourût. Chrysler, bondissant parmi les torrents d'eau, leva son pistolet et, au jugé, fit feu, simplement dans l'espoir d'effrayer les fugitifs. Ce fut une erreur de psychologie. L'on n'est pas parfait. Chrysler, un authentique Allemand, croyait beaucoup à la puissance de la peur. Or, il ne devait réussir qu'à renforcer la résolution de ses victimes de fuir à tout prix, pour préparer leur vengeance. La haine a toujours été plus forte que la peur. Fernau, au cours de ses randonnées dans la mer de Bellering, à la poursuite des phoques, s'était déjà trouvé dans de terribles situations. Il ne perdit pas la tête. Sachant que ses compagnons, comme lui, préféraient la mort à la captivité, il agit en conséquence. « Coupez! Coupez !» hurla-t-il en se penchant vers Eldwell. « Coupez !» Le chimiste, étourdi, confus, ayant toutes les peines du monde à ne pas être projeté hors du voyou par les terribles secousses imprimées à l'Adler par les lames, se cramponna d'une main au banc de l'embarcation et de l'autre commença à scier les taureaux de la corde du palan. Opération difficile. L'eau salée et la tension exercée par le poids de l'embarcation avaient fortement durci le chanvre, et le balancement du canot augmentait encore la difficulté de la tâche. Elwell, déjà affaibli, devait consacrer la majeure partie de ses forces à se retenir pour n'être pas projeté par le dessus bord. Pierre Fernault, tout en taillant la corde du palan opposé, comprit aussitôt que Chrysler et ses hommes, bien que retardés par la nécessité d'éviter les coups de mer, attendraient le canot avant que les palans fussent tranchés. Il bondit vers le centre de l'embarcation où se trouvaient Francis Drake, Margaret et le solliciteur Jellis. « Prenez des gaves, des avirons » hurla-t-il de toutes ses forces. « Il faut rebousser !» Un éclair illumina violemment la nue. Il permit aux Canadiens de voir que Drake et sa fille étaient penchés sur un corps inerte, baignant dans son sang, celui de Jellis. C'était le solliciteur qui avait poussé le râle, ayant fait écho à la détonation du pistolet de Chrysler. La balle du bandit lui avait traversé la poitrine. S'il n'était pas mort, il n'en valait pas mieux. Mais le moment n'était pas au sentiment. « Laissez cet homme !» clama Fernault dans l'oreille de Francis Drake. « Et prenez ce couteau, vous vous en servirez pour couper le palan là-bas. Faites vite ! Pendant ce temps, j'essaierai de repousser nos ennemis, qui vont tenter de sauter dans le canot. » Fernault hurla ces paroles par lambeaux. Il avait empoigné le financier par le col de son veston et lui maintenait l'oreille presque collée à sa propre bouche. Malgré cela, Francis Drake entendit à peine. « J'ai compris, » répondit-il. Il se dressa, rampa d'un banc à l'autre et atteignit le palan déjà entamé par le Canadien. Chrysler et ses bandits n'étaient plus qu'à quelques mètres des bossoirs auxquels était suspendu Liu-Yu. « Ne bougez plus ou je vous tue !» hurla Chrysler. Les hurlements de l'ouragan emportèrent ses paroles. Elles eussent d'ailleurs été bien inutiles. Il le comprit et, se tournant vers ses hommes qui s'étaient rassemblés autour de lui, à l'abri de la claire-voie de la machine, cria « Allez, $1,000 pour chacun si vous empêchez ces rascals de mettre le you-you à la mer. Faites vite, ils sont en train de couper les palans !» $1,000 et pour chacun, une petite fortune pour les bandits. De longues beuveries dans les bouches de San Francisco et du Callao, des orgies sans fin, des plaisirs crapuleux. Mais le cerveau exalté des misérables. Dans leur cerveau passèrent les images des tavernes et des salles de danse, des grands ports du Pacifique. Ils en oublièrent le péril qui était là. La mer en furie, prête à les engloutir. Tous ensemble, avec des clameurs d'enthousiasme, ils se ruèrent vers la brambarde au-dessus de laquelle se balançait le you-you. Leurs hurlements changèrent instantanément de ton. Pierre Fernault, debout en équilibre sur un des bancs du canot, frappait dans le tas à l'aide d'une longue gaffe qu'il venait de ramasser dans le fond de l'embarcation. Coup sur coup, trois des misérables, le crâne ouvert, s'affaissèrent. Deux d'entre eux furent immédiatement enlevés par les lames. Les survivants, terrifiés, reculèrent en désordre vers Chrysler. Le bandit mordit ses lèvres jusqu'au sang. Levant son pistolet d'un geste instinctif, il fit feu dans la direction de Fernault. C'était un bon tireur que Carl Chrysler. Mais le roulis fit trembler son bras. La balle passa bien au-dessus de la tête du Canadien. À la clarté du coup de feu, le bandit distingua Fernault, qui se tenait droit, sa gaffe bien en main, prêt à frapper encore, et aux deux extrémités du you-you, Elwell et Francis Drake, qui se hâtaient de scier les torrents de la corde des palans. « Mais quel est cet individu ?» se demanda Chrysler, qui, ayant assuré son équilibre, fit feu une seconde fois dans la direction de Fernault. La balle égratigna le sommet de l'épaule du Canadien. « $2,000 pour chacun, garçon !» clama Chrysler au comble de la fureur. « $2,000 pour s'emparer du you-you, auriez-vous peur d'un seul homme ?» Oui, ils en avaient peur. Aucun des misérables ne bougea. Ils avaient encore devant les yeux le spectacle de la terrible gaffe s'abattant sur les crânes de leurs compagnons. Devant eux, presque à leurs pieds, le seul des trois blessés qui n'eût pas été enlevé par les lames, conduisait à se tordre dans les arbres de l'agonie. Les ruisseaux, dévalant sur le pont, le roulaient d'un bord à l'autre. Il y avait de quoi refroidir l'enthousiasme le plus invétéré. Les plaisirs qu'on achète avec 2 000 $ étaient loin, et la mort était là, toute proche. Gressler comprit que ses objurgations seraient sans effet. Sarc-boutant sur ses jambes écartées, il visa longuement, balançant son corps pour atténuer le mouvement du roulis. Il pressa la détente. Il avait bien visé cette fois. Seulement, au moment précis où la balle jaillit du canon de son Browning, un double ronflement s'entendit. Ensemble, les cordes des palans auxquelles était suspendu le you-you, profondément entamées par le couteau de Drake et d'Elwell, venaient de se rompre. Elles filèrent dans les poulies, avec un crissement strident, tandis que l'embarcation s'abattait d'un coup sec sur les flots en furie. La balle de Kressler passa juste à l'endroit où eût dû se trouver la poitrine de Pierre Fernault. Le bandit ne put retenir un odieux blasphème. Le you-you avait disparu. Kressler, oubliant le danger, se précipita vers la rambarde. À la lueur blafarde des nappes d'écume tachant les flots noirs, il vit Fernault, qui avait réussi à rester debout dans le canot, écarter l'embarcation du yacht d'une formidable poussée de sa gaffe. Une énorme lame arriva, elle surplomba le you-you et s'écroula sur lui. La gorge serrée de Kressler laissa passer une exclamation de détresse, comme si l'être qu'il chérit le plus au monde se fût trouvé dans le frêle esquif. De fait, c'était sa fortune, l'aboutissement de ses ambitions, le bénéfice de ses crimes que la mer menaçait. Le misérable s'était effrayé à tort. Quand la lame eut passé, le you-you reparut, à demi rempli d'eau, mais à flot. La mer l'avait épargné. Il formait une tache à peine perceptible sur les vagues noires, à une 50aine de mètres en arrière de l'Adler. Sans dire un mot, Kressler se précipita vers la passerelle du yacht où il rejoignit Stein. « Le you-you » hurla-t-il. « Ils ont réussi à le mettre à la mer. Il faut les rattraper, tu le vois, derrière nous, à 2 quarts dans le sud. Il faut le suivre, t'entends ? Je vais faire mettre une embarcation à la mer. » Mais elles sont toutes brisées. Le you-you était seul encore entier, interrompit Stein, qui peut-être n'était pas fâché de la déconvenue de son terrible maître. Gressler serra les poings sans répondre. D'un geste brutal, il arracha les jumelles des mains de son subordonné, et se maintenant à la rambarde pour ne pas être renversé par le roulis, essaya de voir ce que devenait l'embarcation. Un éclair qui creva la nuit lui permit de distinguer le you-you où deux hommes ramaient maladroitement, Drake et Charles Elwell. Le frêle skiff dansait comme un bouchon entre les lames. Kressler jugea qu'il devait être déjà à demi rempli d'eau. Il ne se trompait pas. Le you-you était presque bien plein, bien que Margaret Drake, à l'aide d'un seau de bois, s'efforça frénétiquement de rejeter à la mer l'eau qui l'emplissait. Francis Drake et Charles Elwell, sur l'ordre de Fernault, avaient pris chacun un aviron et tentaient, sans succès, de maintenir le canot debout à la lame, c'est-à-dire dans une direction opposée à celle des vagues, afin d'éviter d'être roulé par elles. Mais cette manœuvre, déjà presque impossible à exécuter avec des marins éprouvés, devenait dérisoire avec des novices. Fernault le savait. Aussi s'occupait-il à fabriquer une ancre flottante en assemblant à l'aide d'une corde la seconde paire d'avirons du you-you, le mât et une gaffe, laquelle ancre flottante étant presque entièrement plongée dans l'eau et offrant moins de prise au vent que le you-you, devait contribuer à le maintenir à la pointe tournée contre les vagues. En quelques minutes, le Canadien eut terminé. Il lança à l'eau le tas d'espars préalablement attaché à la bosse du you-you, qui laissa filer jusqu'à son extrémité. L'embarcation ainsi maintenue souffrit moins. Francis Drake et Charles Lowell, exténués par les coups d'aviron formidables, autant que maladroits qu'ils n'avaient cessé de donner, purent se reposer. Fernault, lui, prit le seau des mains de Margaret, exigea que la jeune fille reprît haleine. « Nous nous reposons chacun notre tour, » expliqua-t-il. Margaret, sans répondre, se pencha sur le corps de Jellis qui gisait dans 3 pieds d'eau au fond du canot. Tout était fini pour lui. Il avait cessé de vivre depuis plusieurs minutes. Cramponnée à un banc, la jeune fille, transie, ruisselante d'eau, ne bougea plus. Près d'elle, son père et Charles Lowell étaient également immobiles et silencieux. Ils regardaient les lames qui, à chaque seconde, semblaient devoir s'écrouler sur la frêle embarcation. Le sentiment de leur impuissance les écrasait. Pierre Fernault, qui vidait avec ardeur l'eau remplissant l'embarcation, se redressa soudain. « Mais le gueux, gronda-t-il, il nous poursuit !» C'était vrai. À 200 mètres à peine, la masse noire de l'Adler s'estompait dans les ténèbres.